Mrs. Dalloway aujourd'hui. Mrs. Dalloway qui est très clairement un roman qui correspond à la ligne de cette série de lectures, conférences, pour ce qui est de l'influence qu'elle a exercée sur mon propre travail d'écriture. C'est vraiment un des livres auxquels je me réfère le plus. Donc quand on a élaboré le programme avec Dominique concernant cette série de lectures, pour moi, Mrs. Dalloway, c'était très clair qu'il fallait que ça figure à un moment ou l'autre. Je voudrais donc à la fois essayer de vous parler de ce roman avec justesse et puis vous dire comment un roman peut déclencher des ondes de choc, en fait, et de quelle façon on retrouve ces ondes de choc dans ce que j'écris. Voilà, ça va être un peu les deux grands temps de mon intervention. Et pour ce qui est de l'interprétation, puisqu'au fond, c'est ça que je fais, c'est des interprétations. Pour ce qui est de l'interprétation, je vais vous proposer de Mrs. Dalloway. Je voudrais m'y prendre de deux façons. En deuxième partie de lecture, je vous parlerai de ce qui me semble être le défi le plus important que s'est imposé Virginia Woolf pour écrire ce roman, qui consiste à osciller en permanence entre éparpillement et réunion. Voilà, Mrs. Dalloway, au point de vue narratif, ça a l'air assez mince. On verra que c'est intéressant, cette minceur. Tout se passe comme si Clarissa Dalloway n'avait qu'une chose à faire de sa journée, c'était préparer une réception, préparer une réunion. Elle réunit des gens. Alors, ça a l'air très ordinaire, même si ça se passe dans un milieu qui ne l'est pas. Mais il me semble que ça correspond à la fois à un sujet d'écriture, à un thème narratif. Le personnage de Virginia Woolf va réunir des gens. Mais je crois aussi que ça représente un enjeu philosophique très profond et un enjeu formel très profond qui structure tout le roman et qui consiste à avoir la force vitale de rassembler, de se rassembler, d'articuler. C'est un enjeu philosophique parce que, et un enjeu existentiel parce que on oscille en permanence entre un désir de se diffracter et un désir de s'unifier dans nos vies. On est attiré par des tas de choses et puis à un moment, ça devient trop et on veut en faire qu'une. Et puis, une, c'est pas assez, alors on en fait plein. Et puis, on en fait trop et on se rassemble. Donc, c'est un mouvement qu'on est nombreux à connaître, quoi, dans nos vies. Et c'est un enjeu formel, bien sûr, puisque dans la construction du roman, puisque Mrs. Dalloway aussi, en permanence, entre l'écriture intérieure d'une pensée, celle de Clarissa, et l'écriture de multiples pensées, puisqu'on passe sans cesse d'une conscience à l'autre, pour revenir toujours à celle de Clarissa, etc. Donc ce mouvement d'éparpillement et de rassemblement, c'est aussi celui de la construction du roman. En ce sens, donc, on pourrait presque dire que cet enjeu narratif qui paraît très faible, réunir des gens un soir, chez soi, c'est aussi une sorte d'indice pour lire Mrs. Dalloway. Comment lire Mrs. Dalloway? Ben, comme un roman où on passe en permanence de l'éparpillement à la réunion. Mais où c'est, d'une certaine façon, la réunion qui gagne à la fin. Comme dans les belles histoires où c'est les gentils qui gagnent. Voilà, donc ça, ce sera le rôle que je développerai en second. Mais pour vous parler de Mrs. Dalloway, pour essayer de vous dire ce que ce roman me fait, je crois qu'il fallait que je parte d'une phrase toute simple et puis que je l'analyse petit à petit, quoi. Je voudrais vous dire que Mrs. Dalloway, c'est peut-être tout simplement quelques heures dans la vie d'une femme. Quelques heures dans la vie d'une femme. Donc on va s'arrêter sur chacun des éléments de cette petite proposition. Quelques heures dans la vie d'une femme. Qui est donc évidemment un titre que je reprends à Stefan Zweig, 24 heures dans la vie, 24 heures de la vie d'une femme, et la nuance est importante. 24 heures de la vie d'une femme, roman intéressant par rapport à Mrs. Dalloway, puisqu'il a été publié 2 ans après. Il y a une curieuse actualité entre 1925 et 1927. 1925, Mrs. Dalloway, 1927, 24 heures de la vie d'une femme. Il y a une intéressante actualité à parler de la journée d'une femme. Ces deux romans suffisent à le signaler, on pourrait en évoquer d'autres textes que des romans, des poèmes. C'est intéressant, semble-t-il, dans l'entre-deux-guerres, de parler de l'emploi du temps d'une femme, de parler de la façon dont une femme occupe ses jours. Ça a certainement à voir, évidemment, avec l'émancipation de la Première Guerre mondiale, avec c'est toutes ces femmes qui ont été livrées à elles-mêmes pendant que les hommes étaient au front et qui ont fait acte d'activité, qui ont fait acte d'acte, qui ont montré qu'elles agissaient et que donc elles avaient un rapport avec ce qu'on peut appeler une intrigue, ce qu'on peut appeler du roman. Quelques heures dans la vie d'une femme, j'utilise ce titre pour pointer la question donc cruciale de ce qui fait histoire dans Mrs. Dalloway. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un roman qui est parfois accusé de vacuité, de minimalisme excessif, de construction éthérée, typiquement féminine, etc. Bon. il faudra essayer de voir un peu plus loin. La quatrième de couverture de l'édition Folio, du moins dans la version que j'ai, est à ce titre vraiment intéressante, puisque bon, c'est pas mal fait, mais il y a cette phrase qui est assez amusante. La qualité la plus importante du livre est d'être un roman poétique porté par la musique d'une phrase chantante et comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures. Bon, je trouve ça très intéressant que les éditeurs Folio, qui sont pas seulement là pour l'amour de la littérature, mais pour vendre des livres, convoquent la notion d'aventure. En quatrième de couverture, ils viennent nous dire, vous en faites pas, vous n'allez pas vous ennuyer, ça aussi, c'est un roman où il se passe des choses. Les impressions sont des aventures. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'y a que des impressions, ben, en fait, vous allez voir, c'est un grand roman d'aventure. Donc c'est presque marrant, quoi, de le voir par le prisme de l'éditeur qui veut quand même vendre quelques exemplaires de Mrs. Dalloway, quoi. Et c'est une manière de récupérer le roman épique par derrière, le roman où il se passe des choses, le roman d'action, quoi. Et justement, moi je crois qu'il se passe autre chose que des aventures dans Mrs. Dalloway, et que donc ce roman propose un autre modèle de roman que le roman épique. C'est ça que je voudrais vous dire, que j'essaierai de vous transmettre à l'horizon de cette première approche, quelques heures dans la vie d'une femme. Bon, alors je vais décliner, évidemment je vais pas décliner n'importe comment, j'ai choisi quelques heures et non pas 24, contrairement à Stefan Zweig. Le tour de cadran n'est pas fait dans ce roman. C'est un récit qui s'étale de la matinée, un des premiers mots du roman, jusqu'à tard le soir. Qu'est-ce qui manque ? Il manque la nuit, et le fait de taire la nuit n'est peut-être pas un hasard dans cette œuvre, puisque chez Virginia Woolf, il y a une intimité à préserver. C'est une valeur cruciale chez elle. Donc, on ne parle pas de la nuit. On pourrait le comprendre comme ça. Je ne parle pas simplement de sexualité, mais de l'absence à soi, du voile social qui n'existe plus quand on dort. Donc, une journée d'été à Londres. Peu de temps après la Première Guerre mondiale, au début des années 20, l'intrigue se passe en 1923, plus ou moins. Journée que l'héroïne Clarissa Dalloway va passer à préparer la réception qu'elle donnera le soir chez elle, dans un quartier très chic de Londres. Aspect roman mondain, donc, dont il faudra traiter à un moment ou à un autre. L'expérience intérieure qu'elle fait de cette journée s'entremêle avec celle de personnages proches d'elle. On passe donc d'une conscience à l'autre, comme je le disais. Cette proximité peut être de trois natures, et c'est intéressant qu'il y ait trois types de proximité autour de Clarissa. Soit par des liens affectifs, c'est la journée où elle va retrouver ceux qui ont été ses deux amours de jeunesse, Peter Walsh et Sally Seton, une femme, alors qu'elle a 52 ans au moment de l'intrigue. Premier type de proximité, donc, le lien affectif. Deuxième type de proximité, des liens familiaux et sociaux, qui ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, son mari Richard, dont on va suivre toute une promenade dans Londres. Sa fille, Elisabeth, la préceptrice de sa fille, Miss Killman. Les amis de son mari, donc tous des notables, soit dans le domaine de la politique, soit dans le domaine de la médecine, etc. Et dernier type de proximité entre elle et d'autres personnages, et c'est le plus virtuose à mon sens, il y a au moins un personnage qui entretient des liens d'affinité avec Clarissa, qu'elle-même ignore et que la romancière est seule à connaître. C'est le cas donc de Septimus Warren Smith, qui est le double sombre de Clarissa, la claire Clarissa, et Septimus, le septième, le fatal. La couture de l'intériorité de Clarissa avec celle de Septimus est le strict fait de la narratrice, puisque les personnages ne se rencontreront jamais. Lui, ancien soldat de la Première Guerre mondiale, victime de ce contre-coup psychologique du conflit dont on a découvert l'existence médicale avec la Première Guerre mondiale, hein, on ne connaissait pas cette expérience avant, et qui présente une sensibilité très proche de celle de Mrs. Dalloway, mais que pourtant l'histoire et la société conduisent au suicide, ce même jour. C'est les deux événements du roman, en fait. Il y a une réception, une réunion, donc, et un suicide, c'est-à-dire un éparpillement, une disparition. Donc Clarissa ne le rencontrera jamais, elle ne fera qu'entendre parler de lui dans la soirée par l'intermédiaire du psychiatre qui a traité Septimus et qui est invité parmi les autres notables à cette réception. Et elle va songer à lui, elle va même accepter son geste et y voir une sorte d'intégrité. Elle va lui donner un sens qui n'est pas morbide ou sinistre. Bon, alors vous voyez, quand on dit qu'il se passe pas grand-chose dans Mrs. Dalloway, c'est déjà rigolo, en fait, quoi, puisque là, il y a à la fois une brièveté de la diégèse, quoi, comme on dit, du contenu narratif, quelques heures, et en même temps une incroyable densité dans l'articulation des psychologies, des vies intérieures. C'est un vrai défi d'écriture d'arriver à concentrer tout ça sur quelques heures. Et comme pour se faciliter la tâche ou nous aider à nous y retrouver, Virginia Woolf décide de marquer très fort le passage du temps par la présence sonore de Big Ben. Big Ben, célèbre cloche de Westminster, et cette présence devient à la fois envoûtante par sa régularité, son caractère obsessionnel, et presque sensuel à force d'image, puisque Virginia Woolf ne nous dit pas Big Ben sonna, elle nous dit les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Quand on a trouvé ça comme formule, on peut vraiment mourir, quoi. C'est magnifique, quoi. The 11 circles dissolved in the air. C'était assez simple à traduire, on ne perd pas trop dans la traduction. On sait que Virginia Woolf comptait initialement intituler son roman The Hours, les heures. Ce qui a été repris pour le film de Stephen Daldry qui est sorti autour de l'an 2000 et qui était lui-même tiré du roman de Cunningham. Ça veut dire que l'insistance sur le temps qui passe n'est pas un hasard dans ce roman, mais un centre d'intérêt crucial, puisqu'il aurait presque pu suffire à nommer le texte. Pendant longtemps, c'est comme ça que Virginia Woolf a travaillé à son roman, en se disant « ça s'appellera The Hours ». Donc par rapport à mon histoire d'aventure et d'événements et d'épopée, on peut déjà dire que ce qui semble intéresser Virginia Woolf, ça n'est pas tant ce qui se passe, les faits, les aventures, que le passage lui-même, que la durée, que l'écoulement du temps, et ses répercussions intenses sur notre être, les vibrations qui s'exercent entre le temps et le sujet. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. On entend une vibration. Par cette image des cercles, on entend du son matériel qui se met à résonner avec nous. Bon, voilà, quelques heures. Quelques heures dans. Et non pas de, comme chez Zweig, j'ai choisi cette nuance à dessein, de façon à faire allusion à cette formidable technique de narration qui est utilisée par Virginia Woolf, et qui lui permet de capter ce qu'on va appeler le flux de conscience des personnages, leur intimité la plus secrète. En d'autres termes, nous plongeons véritablement dans la vie d'une femme, à savoir dans sa tête, dans ses émotions, dans ses impressions, ses sensations, son corps donc, sur cette crête très fine qui sépare son intériorité et le monde extérieur, mais aussi dans l'épaisseur temporelle de son expérience, ce qui autorise la narration à naviguer de façon extrêmement fluide entre l'instant, le plus scintillant, le plus lumineux, et un souvenir très ancien. Et ce, dès le début du roman, hein, premier paragraphe de la page 60. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. « Que nous sommes bêtes », se dit-elle en traversant Victoria Street. « Dieu seul sait la raison pour laquelle nous l'aimons tant, et cette manière que nous avons de la voir, de la construire autour de nous, de la bousculer, de la recréer à chaque instant. Et les mégères informes, les rebuts de l'humanité assis sur le pas des portes, l'alcool ayant causé leur perte, en font autant. On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements. Précisément pour cette raison, ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante, dans le tumulte et le vacarme, les attelages, les automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwichs qui se frayent un chemin en tanguant, les fanfares, les orgues de barbarie, dans le triomphe et la petite musique et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de jeu. Vous voyez cette espèce de tressage permis par la technique du flux de conscience entre une espèce de sismogramme de ce qui se déroule et ce qui se passe au niveau de la peau, quoi, comme membrane entre le dedans, le dehors. Et à la fin de ce paragraphe, Virginia Woolf utilise des points-virgules pour segmenter l'homme sandwich, les autobus, le drôle d'avion qui bourdonnait là-haut, etc. Tout ça, c'est intéressant. Ça ressemble bien à cette espèce de juxtaposition des choses qui fait nos consciences, quoi. La technique du point-virgule. Le flux de conscience, Virginia Woolf n'est pas la seule à l'utiliser et à le maîtriser. C'est une technique qui a marqué son époque. Il faut penser à l'assise que commencent à prendre les différentes théories de l'introspection, comme la psychanalyse ou d'autres, à cette époque, et qui font que la conscience elle-même et ce qu'elle cache, ce qu'elle articule, deviennent des objets cruciaux, quoi. On veut comprendre le fonctionnement de cette vie intérieure, donc les romanciers, il n'y a pas de raison qu'ils échappent à cette espèce de mise en lumière de la conscience. Et dans le domaine strictement littéraire, bon, plusieurs auteurs se sont lancés dans cette aventure, particulièrement Joyce, c'est l'autre grand maître du flux de conscience, à commencer par ce qu'il en donne à lire dans Ulysse, qui est un texte très proche de Mrs. Dalloway sur ce point comme sur bien d'autres. Il y a une sorte de fraternité entre Ulysse et Mrs. Dalloway. Même planning, Ulysse c'est une journée, même personnage-ville, articulé avec des personnages, puisque Dublin joue le même rôle que Londres dans Ulysse. Bon, on pourrait faire beaucoup de parallèles. Reste que la technique du flux de conscience, elle est très singularisée par Virginia Woolf dans ce roman, puisqu'il ne s'agit pas de pur flux de conscience. Par exemple, c'est écrit au prétérit, donc le temps du récit. Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait des fleurs. On est immédiatement inscrit dans un récit, et non pas au présent, comme ce qu'une espèce de sismographe dont je parlais pourrait choisir. C'est écrit à la troisième personne et non à la première. Ça n'est pas « je m'occuperai des fleurs », mais Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait des fleurs. Et de ce fait, la narratrice peut se permettre à tout moment de donner des informations qui échappent à son personnage. Elle peut se remettre en position d'omniscience comme elle le souhaite, de façon très classique. Mais aussi, elle peut se permettre de passer d'un personnage à l'autre avec une fluidité absolument déconcertante. Et souvent d'ailleurs en passant par le ciel. On est dans la tête d'un personnage qui observe un avion, cet avion dont on entend parler tout de suite, là, les nuages. Et puis, le même spectacle est contemplé par un autre personnage, mais on l'apprend seulement petit à petit, quoi, qu'on est passé d'une conscience à l'autre en passant par le ciel. Et c'est ce qui se passe dans un extrait que je voudrais vous lire également, beaucoup plus loin, entre la conscience d'Elisabeth, la fille de Clarissa, et Septimus, dans un moment de grâce, peu de temps avant son suicide. Il faut vraiment admirer le travail de lissage qui se passe là-dedans. Une bouffée de vent, malgré la chaleur, il faisait du vent, va recouvrir d'un mince voile noir le soleil et le Strand. Les visages se décolorèrent. Les omnibus perdirent d'un coup leur éclat. Car même si les nuages étaient d'un blanc de montagne, de sorte qu'on pouvait s'imaginer y tailler des copeaux à l'aide d'une hachette, et qu'on distinguait sur leurs flancs de larges pentes dorées, des pelouses dans de célestes jardins des délices, et que tout leur donnait l'apparence de séjours rassemblés pour un concile des dieux au-dessus du monde, ces nuages étaient animés d'un mouvement perpétuel. Calmement, avec maestria, Elisabeth Dalloway monta dans l'omnibus de Westminster. Ils allaient et venaient, ils faisaient des signes, des signaux, des jeux de lumière et d'ombre qui tantôt rendaient le mur gris, tantôt les bananes jaunes vifs, tantôt rendaient le Strand gris, tantôt les omnibus jaunes vifs. Telle est l'impression qu'avait Septimus Warren Smith allongé sur le sofa dans le salon. Il regardait l'or liquide briller puis se décolorer, avec l'étonnante sensibilité d'un être vivant, sur les roses du papier peint. Dehors, les arbres tendaient leurs feuilles comme des filets dans les profondeurs de l'air. Le bruit de l'eau se répandait dans la pièce et à travers les vagues parvenait le chant des oiseaux. Toutes les puissances déversaient leurs trésors sur sa tête et sa main était posée là, sur le dossier du sofa, comme il avait vu sa main posée lorsqu'il se baignait, qu'il flottait à la surface des vagues et qu'il entendait loin, très loin sur le rivage, les chiens aboyer, aboyer. « Ne crains plus », dit le cœur enfermé dans la poitrine, « ne crains plus ». Enfin, c'est génial d'avoir trouvé une technique narrative pareille, quoi, et de l'avoir... Enfin, lissé, comme poli. Si vous voulez, ça change quand même beaucoup de. Il y a du soleil, dit-elle. Oui, dit-il, quoi. Vous voyez, enfin, on est dans complètement autre chose, même dans l'intrication des discours, la narratrice et ses personnages. Bon, donc Clarissa, dans cette espèce de mouvement collectif, au fond, de focale successive entre des consciences, elle sert de fil conducteur. Elle sert de point de rassemblement. Pour passer d'une vie à l'autre. On passe pas simplement d'une vie à l'autre, on passe d'une vie à celle de Clarissa, d'une autre vie à celle de Clarissa, Clarissa, Clarissa. Mais il me semble que cet usage d'un fil conducteur nous permet finalement de passer quelques heures dans la vie tout court. Pas simplement quelques heures dans la vie d'une femme. Je crois que Virginia Woolf essaie de nous faire passer quelques heures dans la vie tout court. Donc la vie, ce que j'entends par là, c'est vaste. J'entends deux choses au moins. Est-ce que la vie, ça veut dire la réalité? Oui, oui, c'est intéressant ça pour Mrs. Dalloway. Quelques heures dans la réalité. Et non pas quelques heures dans un roman éthéré, strictement centré sur des intimités, closes, égocentriques, nombrilistes, comme on a pu le dire. Le journal de Virginia Woolf est très intéressant sur ce point, et il est cité dans la préface de cette édition. Dans ce livre, j'introduis presque trop d'idées. Je voudrais exprimer la vie, la mort, la raison, la folie. Je voudrais critiquer le système social, le montrer à l'œuvre dans toute son intensité. Bon. Il ne s'agit pas de se regarder le nombril, quoi. Il s'agit d'utiliser l'intériorité comme un point de vue pour embrasser tout. Et de fait, on brasse presque toute la structure sociale d'une société de l'entre-deux-guerres. On brasse le traumatisme du conflit à travers Septimus, mais aussi tout ce qui fait la norme psychologique, Septimus encore, la norme familiale et sexuelle autour de la question du mariage dans son rapport au désir, qui est une des grandes interrogations de Clarissa, la norme religieuse via la très pieuse Miss Killman, donc la préceptrice d'Elisabeth, la norme politique à travers le milieu ministériel de Richard Dalloway, un conservateur bontain. Toutes les classes sociales sont abordées, même furtivement, lors des promenades de Clarissa ou de Peter Walsh. Au début du roman, on suit quelqu'un qu'on estime être l'une des têtes du royaume, quoi, hein, la reine ou le roi, ou peut-être un ministre dans une voiture sombre. Bon. Et puis, il est également question des mégères alcooliques, dans le passage que j'ai lu. Plus loin, il y a des gens qui sont dans une pension, qui sont des gens plutôt de classe moyenne inférieure. Bon, on rencontre les commerçants, on rencontre les ouvriers, les artisans. Il en est question. Et on essaye d'embrasser tout ça. Il est même question de problèmes de stratégie internationale à travers le personnage de Peter Walsh et la question indienne qu'il véhicule, même s'il n'est pas le seul à en parler. Puisque début des années 20, c'est l'émergence de Gandhi et il est fait allusion à un moment nettement pour quelqu'un qui est dans la géopolitique de l'époque à cette première percée publique de Gandhi. Il est question de l'Albanie aussi, même si Clarissa se trompe de nom entre l'Albanie et un autre pays, parce qu'elle ne se considère pas comme une spécialiste de questions internationales. C'est tout un monde, quoi, qui est véhiculé par... C'est un roman monde, Mrs. Dalloway. C'est pas un roman de la stricte intériorité. Bon, et par la vie, j'entends plus profondément peut-être le processus vital tel que Virginia Woolf le conçoit. Ou du moins tel que je crois qu'elle le conçoit. Il y a une page très curieuse à ce titre, qui est la page 221, qui va peut-être nous aider à y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que c'est la vie pour, par derrière Clarissa, pour Virginia Woolf? C'est un passage où, d'un seul coup, Clarissa se sent très triste, et puis elle fait de l'introspection, et elle comprend pourquoi. C'est quand même formidable. On ne peut pas tous se réclamer d'une telle lucidité. Elle se sent triste parce que deux hommes qui lui sont très chers l'ont critiqué coup sur coup d'être une mondaine. Peter Walsh, qui lui a rendu visite par hasard, rentré des Indes presque quelques heures avant, on a l'impression, et Richard, son mari. Elle se prépare pour la réception et elle sent très bien que Peter la considère presque comme une cocotte, quoi, comme une sorte de femme légère qui passe son temps, pas au niveau des mœurs, mais au niveau des centres d'intérêt, quoi, qui passe son temps à s'occuper de trucs de bonne femme, quoi. C'est un peu ça le point de vue de Peter Walsh. Et Richard lui reproche de s'investir trop dans cet événement alors qu'elle a été malade, que son cœur est fragile, qu'elle a souffert de la grippe espagnole, etc. Et voilà comment elle se justifie. Eh bien, ils avaient tort tous les deux. Ce qu'elle aimait, c'était tout simplement la vie. C'est pour cela que je le fais, dit-elle en parlant tout haut à la vie. Et un peu plus loin, pour creuser plus profond, sous ce que disaient les gens, et ses jugements, comme ils sont superficiels, incomplets, pour creuser dans son propre esprit, qu'entendait-elle par cette chose qu'elle appelait la vie? Oh, c'était très étrange. Imaginons un tel à South Kensington, un tel à Bayswater, et quelqu'un d'autre, disons, à Mayfair, donc des quartiers de Londres. Elle avait en permanence le sentiment de leur existence, et elle se disait quel gâchis, elle se disait quel dommage, elle se disait si seulement on pouvait les faire se rencontrer, et elle le faisait. Et c'était une offrande, un arrangement, une création, mais pour qui? Bon, c'est quand même passionnant cette histoire, parce que c'est pas évident à comprendre, quoi. La vie, c'est quoi pour Clarissa? C'est pas une histoire de snobisme, de rassembler des gens. Une Virginia Woolf elle-même, en fait, se revendique du snobisme, quoi. Donc, suis-je snob? Très clairement, elle répond oui, quoi. Elle dit, voilà. C'est une position très intéressante sur le snobisme. Donc, Clarissa se défend de ça, et ce qu'elle dit, ce que j'aime, c'est réunir. Pour moi, la vie, c'est réunir. Réunir des gens. Elle, ce qu'elle dit, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est réunir des gens. C'est rassembler ce qui existe et qui perd tellement à ne pas l'être. Qui perd tellement à ne pas être rassemblé. Bon, c'est à prendre au sérieux, ça. Parce que c'est un travail d'articulation, c'est un travail de liant, quoi. Et ce qu'elle fait entre les gens, il se trouve qu'elle le fait entre tout. Et c'est peut-être ce qui lui permet de dégager une telle présence, comme tous les personnages le constatent autour d'elle. Clarissa Dalloway, c'est quelqu'un de clair, d'éclairant. C'est quelqu'un qui a une présence, comment dire, lumineuse. Parce que peut-être que rassembler, c'est justement une définition du processus vital. Articuler des choses. Bon, évidemment, moi, ça me fait penser à mon cher Deleuze. Deleuze dirait, pour le travail qu'accomplit Clarissa, considérons-le comme un travail, créer des agencements. Ce qui est vivant, c'est ce qui articule, de façon créatrice, un corps et un milieu. Ça, ce serait du Deleuze, mais c'est à peu près ce que fait Clarissa, quoi. Elle articule son corps et un milieu qui est composé d'autres corps qu'elle articule, mais aussi du soleil, du bruit de l'avion, du bus qui passe, point virgule, point virgule, point virgule, dans la même phrase. C'est un travail articulatoire, c'est un agencement. La phrase elle-même est un agencement. Pour Deleuze, ça, ce serait valable, cette définition du processus vital comme création d'agencement à l'échelle du lichen, qui est un champignon et une algue réunis ensemble pour survivre. C'est ça, un lichen, c'est une sorte de miracle, quoi. Deleuze parlerait volontiers de la tique, qui est un animal qui crée un agencement très simple, avec trois types de perceptions de son environnement, la chaleur, la distance, et puis la nécessité vitale de survivre. Donc ça marche pour le lichen, ça marche pour la tique, le pou, mais ça marche aussi pour une femme élégante d'une société européenne en plein bouleversement. Elle est vivante au sens où elle agence, elle rassemble, elle crée des agencements. C'est valable aussi pour un personnage qui a l'air aussi massif, unique, comme une monade, quoi, dirait Leibniz, close, quoi, qui est Lady Bruton, cette espèce de d'homme-femme, quoi, d'homas, qui s'est construite comme diplomate, au fond, dans l'environnement de Richard Dalloway, et qui a vraiment l'air d'être, je sais pas, un autobus, un facochère, enfin quelque chose qui va tout droit, quoi, et qui laisse pas de place autour d'elle, quoi. Bon. Alors cette fameuse Lady Bruton, regardons un peu ce qu'elle fait quand elle a libéré ses invités pour un déjeuner diplomatique et qu'elle commence à sommeiller. Tout son être se tournait maintenant sans équivoque. Elle a déjeuné, donc elle fait la sieste, quoi. Mais ça, c'est aussi Virginia Woolf, hein. Elle est capable de parler de choses comme ça, extrêmement concrètes. Tout son être se tournait maintenant sans équivoque vers le sujet qui retenait toute son attention, et pas seulement son attention, mais la fibre de son être, l'ossature de son âme. Cette part essentielle d'elle-même, sans laquelle Millicent Bruton n'aurait pas été Millicent Bruton. Ce projet consistant à faire émigrer des jeunes gens des deux sexes, nés de parents respectables, et de les installer au Canada avec de bonnes chances de réussite. Elle exagérait. Peut-être avait-elle perdu le sens de la mesure. Pour d'autres qu'elle, l'émigration n'était pas forcément la panacée, l'idée de génie. Ce n'était pas pour eux, pour Hugues, pour Richard, ni même pour la toute dévouée Miss Brush, un besoin de libérer l'élan vital, réprimé, qu'une forte femme d'allure martiale, bien nourrie, bien née, au sentiment direct, sans arrière-pensée, et dotée d'un faible pouvoir d'introspection, une âme sans détour. Pourquoi n'y avait-il pas que des âmes sans détour? Elle posait la question. Sans se lever en elle, une fois la jeunesse passée, et qu'elle doit projeter sur un objet quelconque, ce peut être l'émigration, comme ce peut être l'émancipation, quel qu'il soit, cet objet autour duquel se distille chaque jour l'essence de son être finit par devenir prismatique, chatoyant, moitié miroir, moitié pierre précieuse. Parfois soigneusement dissimulé, de peur que les gens ne s'en moquent. Parfois fièrement exhibé. Bref, l'émigration était devenue partie intégrante de Lady Bruton. Alors, je suis content que vous rigoliez, parce que c'est un passage drôle, clairement. C'est un passage où la féministe Virginia Woolf est en train de se moquer d'une autre femme, quoi. Une femme qu'elle a imaginée comme une projection de ce type de femme qui, pour se faire sa place parmi les hommes, se métamorphose en homme, quoi. Millicent Bruton, bon, le nom est... Il y a toute une onomastique à faire dans Mrs. Dalloway. Elle s'appelle Bruton. C'est quelqu'un qui a enclenché la brute, Lady Bruton. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait, cette Millicent Bruton? Ben, elle articule. Elle crée un agencement. L'émigration devient partie intégrante de son élan vital, quoi. Bon, évidemment, il y a quelque chose comme un détournement de la frustration du désir chez Lady Bruton, on pourrait le lire comme ça. C'est une femme qui n'a pas eu d'homme, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant, et qui, curieusement, envoie des jeunes gens à l'autre bout du monde. Bon. Ce qui est à la fois une façon de s'occuper d'eux et une façon de les faire dégager, quoi. Enfin, là, il y a la lecture de la maternité aussi, quoi, qu'il faut entendre de la part de Virginia Woolf. Et en même temps, ce truc que ça, c'est la fibre de son âme, c'est l'ossature de son âme, c'est, enfin, on est vraiment dans la construction d'un agencement, là, typiquement, quoi. C'est quelqu'un qui articule sa vie avec des choses extérieures, qui en fait une expérience. En l'occurrence, une action politique. Alors là où on rejoint Deleuze également, c'est lorsqu'il dit que tous les grands écrivains témoignent pour la vie. Il dit que le boulot d'un écrivain, en fond, c'est ça, quoi. C'est témoigner pour la vie. Donc vous l'aurez compris, il me semble que Virginia Woolf fait beaucoup plus que raconter des aventures, je crois qu'elle témoigne pour la vie. C'est pas trop dire que de dire ça. 24 heures, dans quelques heures, dans la vie d'une, je m'arrête un peu là-dessus, d'une. La subjectivité, je vous parle de la vie entière, là, et en même temps, la subjectivité reste une échelle très importante dans Mrs. Dalloway, il faut en parler un peu maintenant. C'est la vie, oui, mais du point de vue d'une femme. C'est la vie rassemblée autour du point de vue d'une femme, disons. Puisqu'il n'y a pas que son point de vue qui se fait entendre. Mais voilà, encore une fois, c'est notre fil directeur. Il y a trois choses qui caractérisent la subjectivité dans Mrs. Dalloway, je crois. Au moins trois choses. D'abord, la profondeur. C'est particulièrement vrai pour Clarissa, mais au moment de l'endormissement de Lady Bluton, on l'entend aussi, Virginia Woolf utilise en permanence des métaphores des fonds marins pour parler du plus intime de l'intime. À l'intérieur de l'être, il y a encore des couches multiples, et la plus profonde de ces couches est systématiquement décrite comme une sorte de grotte, comme une sorte de strate très profonde. Voilà, les fonds marins. C'est de ça qu'il est question. C'est le trait le plus saillant de la subjectivité, le plus évident. Il y en a un autre, qui est son corollaire, c'est l'isolement. Profondeur, isolement. Puisqu'il y a, très clairement, exprimé par la narratrice, un caractère inconnaissable de la subjectivité par les autres. On est dans des bulles très largement fermées. Ce qui veut dire qu'il y a une solitude fondamentale des humains, qui est peut-être l'un des enseignements de la maladie pour Clarissa. C'est une des choses qu'elle retire de sa maladie. Et dans le même temps, il y a une capacité à vibrer avec l'ensemble. Donc on n'est pas dans la fusion, on est dans la propagation d'une onde, pour Virginia Woolf. On ne communie pas, mais on résonne les uns avec les autres, exactement comme des cordes sympathiques. Si vous mettez deux guitares l'une à côté de l'autre et que vous faites résonner une corde manuellement, si vous touchez l'une des cordes, vous faites résonner sans la toucher la même corde sur l'autre guitare. Ça fonctionne très bien pour comprendre, je crois, comment Virginia Woolf distribue la communication entre les subjectivités dans les Mrs. Dalloway. On fonctionne comme des cordes sympathiques. Donc on résonne ensemble, mais à distance. Il y a des distances de sécurité. Ça s'explique, ces distances de sécurité, en raison du troisième trait que je retiens de la description de la subjectivité dans Mrs. Dalloway, qui est la fragilité. La subjectivité, c'est une position depuis laquelle on peut s'ouvrir au monde entier, à la vie entière, mais cette ouverture peut conduire à des effondrements. Si on s'ouvre trop, on casse. Septimus, c'est précisément la subjectivité qui s'ouvre trop, qui voit des signes partout dans le monde, qui reçoit toutes les informations du monde comme des signes, donc comme des choses à décoder, comme des choses qui ont du sens. Que ce soit le message publicitaire derrière l'avion, dans le ciel, les nuages, les voix des enfants, le bruit du vent dans le feuillage, tout ça, c'est des espèces de discours pour lui. Donc il est assailli de sens, précisément parce qu'il est passé par l'absurde totale de la guerre, quoi. Et qu'il a un besoin par la suite de resémantiser le monde entier, quoi. Tellement il s'est présenté sous son jour de néant, quoi. Donc Septimus dépasse cette mesure fameuse dans le roman qui fait la norme sociale britannique, que j'évoquais tout à l'heure comme une norme psychologique, et qui est incarnée par les médecins gravitant autour de lui. Il y en a deux. Holmes, d'ailleurs, c'est intéressant, le médecin traitant, on dirait le généraliste, s'appelle Holmes comme un enquêteur, quoi. Sauf que c'est un enquêteur foireux, quoi. Il ne comprend pas la subjectivité de Septimus. Il lui dit qu'il faut être raisonnable. Bon. Autrement dit, de par cette fragilité, dont Septimus est vraiment l'illustration, on comprend qu'il faut protéger le « un ». Ce 1 dont je vous parle, quelques heures dans la vie d'une femme. Le 1, il faut le protéger. Et les institutions semblent autant servir à cela qu'à maintenir l'ordre collectif. Ça, c'est une idée vraiment intéressante du roman. Et particulièrement le mariage, l'institution du mariage. Les institutions, c'est presque toujours considéré comme le ciment de la société, disons. Mais dans Mrs. Dalloway, c'est aussi le ciment de l'individu, quoi. Alors, Virginia Woolf ne trouve pas ça bien, que les institutions servent à ça, mais en même temps, elle ne les critique pas non plus de façon totalement unilatérale. Mrs. Dalloway a choisi Richard parce qu'il la rassure, plutôt que Peter, dont elle était plus amoureuse, mais qui lui écorchait la vie, qui la disséminait, justement. Richard la rassemble. Et c'est ce qui explique peut-être la relative clémence donc, de Virginia Woolf vis-à-vis du mariage par rapport aux autres institutions. Elle les critique beaucoup plus clairement. Et pourtant, cette position par rapport au mariage ne l'empêche pas de défendre des thèses ouvertement féministes, ne serait-ce d'ailleurs qu'en commençant par faire d'une femme une héroïne de roman, Mrs. Dalloway. Donc 24 heures dans la vie d'une femme, dernier moment, quelques heures dans la vie d'une femme. Vous voyez, le titre de Sfai, il est quand même aimanté, hein, on a du mal à s'en défaire. Si Clarissa est une femme beaucoup plus conservatrice que sa narratrice, Mrs. Dalloway, très clairement, les conceptions féministes de l'auteur transparaissent malgré tout à travers son personnage. Et pour Virginia Woolf, je crois qu'il y a une sorte de féminisme du mariage. Au-delà du bonheur de vivre, un libre choix d'union, ce qui est déjà une conquête qui a pris 1500 ans, le mariage peut protéger la femme. On l'a vu affectivement. Richard rassure, cadre, unifie Clarissa, mais également socialement. Le mariage protège socialement la femme. Bon, il faut voir qu'on n'est pas dans les années 60 avec Mrs. Dalloway, effectivement. On est dans les années 20. C'est pas le même féminisme. Il est en train de se construire. Il a déjà des heures de vol derrière lui, mais c'est pas le même contexte que nous, on a reçu comme, les grandes conquêtes, quoi. On est bien avant la pilule. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Donc, cette protection du mariage, clause impérative, elle doit s'exercer sans contrepartie aliénante. C'est ça, le point de vue révolutionnaire de Virginia Woolf. Il faut à toute femme ce qu'elle appelle une chambre à soi. Pour reprendre le titre d'un essai qui est postérieur à Mrs. Dalloway, mais qui est comme préparé par Mrs. Dalloway, et c'est de 1929, alors que donc le roman date de 25. Une chambre à soi, c'est quoi ? C'est littéralement un espace clos que Virginia Woolf n'a pas eu quand elle était jeune, dont elle a souffert, parce qu'elle a été, maltraitée par ses frères. C'est un espace clos où préserver son self, quoi, son soi, cette intimité fragile. Par métaphore, cette chambre à soi, ça doit devenir la construction de la subjectivité d'une femme pour Virginia Woolf. Il faut avoir des parois poreuse, mais parois, pour être une femme émancipée, disons. C'est certainement pas un hasard si la construction de Mrs. Dalloway repose sur une alternance entre le dedans et le dehors, comme on dit au cinéma, entre l'extérieur et l'intérieur. Le tout début, c'est les portes qu'on enlève de l'orgon pour accueillir les gens. On est tout de suite dans le truc, hein, tout de suite dans l'enjeu, en fait, dedans-dehors. Et en gros, Mrs. Dalloway, ça peut se résumer comme ça, extérieur jour, intérieur jour, extérieur jour, intérieur jour, extérieur jour, intérieur nuit. C'est pas un hasard non plus si Mrs. Dalloway rejoint une chambre à elle seule en rentrant de sa promenade matinale. C'est ça qui se passe quand elle rentre. Elle va pas mettre les fleurs dans les vases, préparer, la nappe, les couverts, etc. Elle se replie dans une sorte de cellule, hein, qui a vraiment des traits religieux, un peu comme... ce qui a dû être vécu ici. Et donc là-dessus, il semblerait que le roman précède l'essai, quoi. Une chambre à soi, c'est un développement théorique de ce moment de cadeau que Mrs. Dalloway s'offre en rentrant chez elle. Et entre cet isolat de la chambre et ce rattachement social par le mariage, la femme, à partir de là, peut très librement expérimenter des agencements variés, justement, dans le domaine affectif. Et notamment, des émotions homosexuelles extrêmement explicites dans le roman, ce qui est l'une de ses grandes audaces, quoi. Puisque Clarissa s'avoue à elle-même que le plus beau moment de sa vie, c'est quand Sally l'a embrassée sur la bouche. C'est le moment lumineux, quoi. Le moment le plus lumineux. Mais dans Mrs. Dalloway, cette expérimentation d'agencement, elle reste au stade des émotions. Clarissa, d'ailleurs, analyse fort bien en elle-même ce qu'on peut appeler une forme de frigidité. Elle utilise des termes qui ne sont pas médicaux, mais qui sont très proches de cela. Ce qui, d'une certaine façon, et là encore, c'est un paradoxe féministe intéressant de la part de Virginia Woolf, libère son corps du désir. Elle est libre de désir. Elle a eu des enfants, mais elle garde une sorte de curieuse virginité, je crois. Cette libération du corps par l'absence de désir la rend totalement disponible en imagination. Et le plaisir en tant que tel passe par ailleurs, par d'autres formes d'union, comme la réception, justement. C'est un fonctionnement très proche de celui de Lady Bluton dans la canalisation du désir, de l'élan vital. Bon, Virginia Woolf dit élan vital, on peut dire désir. Si le désir, c'est la pulsion d'exister, chez Clarissa, ça se conjugue après la maternité, à travers l'union des amis. Et je crois qu'en cela aussi, Mrs. Holloway est un témoignage extrêmement saisissant d'une époque, de par la place dans ce roman qui est laissée au désir pour s'accomplir. Curieuse époque dans laquelle le désir d'une femme s'accomplit dans l'événement mondain, l'union des extérieurs chez soi, en enlevant l'ego. Bon, qu'est-ce que donc je voudrais vous faire passer d'essentiel en déclinant cette petite proposition, quelques heures dans la vie d'une femme. Je voudrais vous dire que Mrs. Holloway est un roman du devenir et non plus un roman du faire. L'épopée, c'est donc le récit de guerre, c'est quoi? C'est le parangon de l'aventure, c'est la spécialité des auteurs masculins, depuis Homère ou Gilgamesh jusqu'à la science-fiction, l'héroïque fantasy aujourd'hui. Très intéressant, Mrs. Holloway, c'est un roman sur la guerre, bien sûr, via Septimus. Mais c'est un roman de l'après-guerre. Ça se passe pas pendant la guerre, c'est pas un roman épique, c'est pas une épopée. C'est pas un roman d'aventure, c'est pas un roman d'action. Il ne s'agit plus de faire des actes héroïques, il s'agit d'être le plus intensément possible. C'est ça la grande aventure, s'il y en a une, dans Mrs. Holloway. C'est être le plus intensément possible. C'est ça les pics d'intensité. Et qu'est-ce que c'est être le plus intensément possible en doxa deleuzienne? C'est devenir. Le moment où l'être est le plus intense, c'est le moment où il coule tranquillement. Le moment où il peut être, puis être, puis être, puis être, puis être. Donc, le verbe être convient plus, en fait, quoi, parce que l'être continue à garder en lui une idée de fixité qui est incompatible avec cette intensité dont il est question dans Mrs. Holloway. Dans Mrs. Holloway, comme je le disais, hein, c'est les heures qui passent, le thème, c'est l'écoulement, c'est ça, devenir. L'être a une tendance à bloquer le devenir, quoi. Et si on pense à la structure politique qui correspond à l'être, c'est-à-dire l'État est précisément une structure qui est faite pour se prolonger elle-même. La préoccupation principale et presque exclusive de l'État, c'est se prolonger lui-même. C'est bloquer l'être, et non pas devenir. Le jour où un système politique arrivera à devenir, je pense qu'on sera très heureux. Du coup, avec cette histoire d'être le plus intensément possible, on peut considérer le choix d'une mondaine, d'un personnage de mondaine, qui peut paraître curieux pour évoquer des trucs pareils, comme au contraire extrêmement judicieux. Qu'est-ce que c'est une mondaine? C'est quelqu'un qui n'a qu'à être. C'est quelqu'un qui est disponible à la présence pure. Elle peut choisir d'aller chercher ses fleurs, mais elle n'est pas obligée. Elle dit à sa domestique qu'elle s'en occupera, mais par plaisir. Et quand elle rentre, elle ne dispose pas les fleurs dans un vase. Elle va se recueillir dans sa chambre. Alors, c'est pas quelque chose forcément que Virginia Woolf cautionne, cette structure sociale qui fait qu'il y a cette division du travail, mais ça lui permet, en termes narratifs et non plus en termes politiques, de rendre compte de ce que c'est qu'un personnage qui fait une expérience de présence pure. Ça aurait pu être une religieuse, sauf qu'elle n'aurait pas eu la vie sociale. Mais elle a les traits d'une religieuse, hein, très clairement, donc quand elle monte dans sa mansarde, là, voilà ce qu'on nous dit, comme une religieuse qui fait retraite, ou un enfant qui explore une tour, elle monta à l'étage, s'arrêta devant la fenêtre, s'approcha de la salle de bain. Bon, c'est clair, hein. La mondanité permet à une femme d'avoir la liberté de se recueillir, qui est normalement l'exclusif privilège de la religieuse. Mais Clarissa reste, dans le même temps, ou plutôt dans son devenir, une frivole, une dispersée. C'est aussi ça, Clarissa. Et en cela, elle correspond donc précisément à cette problématique centrale du roman que je voudrais détailler un petit peu par rapport à ce que je vous disais en introduction. Éparpillement et réunion. La religieuse, la mondaine. Ou plutôt le contraire. Éparpillement, la mondaine. Réunion, la religieuse. Donc je rappelle, Mrs. Dalloway aime la vie, c'est-à-dire réunir. J'y pense, c'est hallucinant d'écrire quelque chose comme ça, quoi. C'est pour cela que je le fais, dit-elle en parlant tout haut à la vie. Dans le passage que je vous lisais tout à l'heure, elle s'adresse à la vie, c'est incroyable, à la vie. Donc elle aime dire à la vie, je t'aime, quoi. C'est-à-dire, j'articule. Mais elle est sans cesse soumise par sa nature profonde et par la société à des forces contraires qui la poussent vers l'éparpillement. C'est particulièrement sensible lors de la réception elle-même, puisqu'elle passe sans cesse d'un convive à l'autre avec une sorte de frustration. Elle a le temps de dire deux mots, et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a le système du gueuleur à l'entrée là, qui dit truc arrive, et du coup elle cavale pour aller recevoir tout le monde. Il y a tout un moment au début où elle se sent un peu comme une chandelle, quoi, pour accueillir les gens. Alors que précisément pendant cette réception, il y a ces deux amoureux qui viennent, c'était pas prévu. Il y a Sally et il y a Peter, quoi. Et ils sont là tous les deux, ils discutent comme deux vieux copains, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Enfin, elle est vraiment éparpillée, cette Clarissa, quoi. Et puis, c'est quoi la fin du roman? C'est son retour vers ses amis, quoi. There she was. Elle était là. Elle était là. Justement, elle était là. Donc ça s'achève sur le rassemblement. Septimus souffre exactement de la même tension entre réunion et éparpillement, mais à un stade beaucoup plus aigu. Page 88, c'était déjà un peu sensible dans le passage que je vous lisais tout à l'heure avec les nuages, mais au moment des nuages, il aime bien cette espèce d'assaut de sens qu'il reçoit du monde. Page 88, il souffre. Les feuilles étaient vivantes, les arbres étaient vivants, et les feuilles reliées par des millions de fibres à son corps sur le banc l'éventaient de haut en bas. Quand la branche s'étirait, il en faisait autant. Les moineaux qui battaient des ailes, qui s'élevaient et retombaient en cascade dentelée, faisaient partie de cet ensemble, tout comme le blanc et le bleu barrés de branches noires. Les sons faisaient entendre une harmonie préétablie, les intervalles qui les séparaient avaient autant de sens que les sons eux-mêmes. Un enfant se mit à pleurer, à bonne distance, comme il convenait, un klaxon retentit. Le tout pris ensemble annonçait la naissance d'une nouvelle religion. Bon, là on plonge dans le délire. Voyez, en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est à la fois de tout recevoir, d'être complètement éparpillé et de tout réunir. Que tout fasse sens vers religion, religio, quoi. Littéralement, religio, c'est relié, quoi. La religion, ça sert à ça. C'est ce qui relie l'univers. C'est ce qui fait des liens entre tout et tout, quoi. Bon, voilà, le problème de Septimus, c'est que pour lui, le divers devient divin. Alors ça fonctionne quand il y a tout un système social qui est d'accord et qui accepte un mode de liaison entre les choses du monde de façon consensuelle. Si vous réfléchissez à la hiérarchie chrétienne que moi j'ai reçue quand j'étais petit, c'était les anges, les saints, les archanges. Enfin, c'est une hiérarchie délirante si on la regarde avec distance. Si vous parlez de ça à un Touareg, il comprend pas le truc, quoi. Enfin... Mais il y a un consensus social dans une région déterminée, dans un groupe qui est suffisamment étendu, pour qu'on soit d'accord, pour qu'il y ait un groupe qui soit d'accord. Une religio, ça ne fonctionne pas entre un individu et le monde, sauf quand on est éventuellement poète, ou c'est toléré. Mais une religio, c'est aussi une religio entre des gens, c'est un consensus contraignant. Mrs. Dalloway essaie de nous parler d'autre chose, d'une autre façon de relier. S'il n'y a pas le consensus social dans la religion, ça n'est qu'un délire magnifique et stigmatisant. Définitivement. On est mis au banc. Si on a une religio personnelle et qu'on en fait part, bon, on termine à l'hôpital, quoi. Bon, en fait, entre Clarissa et Septimus, tous les personnages principaux naviguent entre ces deux pôles en permanence, entre union, rassemblement et éparpillement. Et surtout, donc, c'est ça qui est génial, il n'y a plus de forme et de fond séparés, quoi. L'intrigue elle-même est prise par ce mouvement de dispersion et de recentrage. Par le passage des multiples consciences vers celle de Clarissa, et retour. C'est ce que nous dit Virginia Woolf dans son journal. Il y a presque trop d'idées dans mon roman. Elle-même, elle embrasse, elle veut embrasser une diversité immense, quoi. Et elle arrive à le traiter formellement. Et dans cette perspective, le pouvoir des institutions sociales, il est très très bien compris, en même temps que critiqué. La société étant l'outil de réunion numéro un, quoi. Une société, c'est une société. C'est ce qui unit. Les institutions sont des outils de rassemblement, elles font tenir la société. Et dans le même temps, elles l'étouffent parce qu'elles sont fixes ou trop lentes à évoluer. C'est ce que je disais par rapport à l'État en tant que blocage de l'être. Le tour de force de Virginia Woolf, c'est de parvenir à formuler un mode de relation au monde, à travers Clarissa, qui soit dense, mais non bloqué, une religio individuelle, apte à respecter le devenir monde de l'individu, sans le faire éclater. Septimus, il éclate, mais Clarissa, elle n'éclate pas. Et c'est pour ça, je crois, que c'est le personnage principal. Et non pas Septimus. Elle est dans une religio individuelle qui ne la crame pas, quoi. Qui ne l'écorche pas. Clarissa, celle qui voit clair, c'est-à-dire celle qui a une intuition religieuse de l'existence, sans avoir besoin ni de Dieu, ni d'Église. Donc, ni d'unicité, Dieu, l'être, ce qui bloque le devenir. Dieu, c'est l'équivalent de l'État dans le domaine des idées, quoi. C'est une sorte d'État au ciel, quoi. D'ailleurs, on parle de Jérusalem céleste. Pas d'église. Clarissa n'a pas besoin d'église, pas d'institution. Elle a une relation au devenir immédiate. C'est préparé peut-être par le caractère protestant anglican dans la culture de Virginia Woolf, puisque les protestants sont déjà ceux qui instaurent une relation individuelle entre le croyant et Dieu, quoi. Par rapport aux catholiques, qui passent toujours par le relais du prêtre, quoi. C'est ce qui fait peut-être donc de Mrs. Dalloway une sorte de prière athée, plutôt qu'un simple roman. Ce que d'ailleurs The Hours, et je reviens à ce que je disais au début, entendait peut-être également dire. Puisque en français comme en anglais, les heures, The Hours, ça peut désigner les prières, par métonymie. On dit à un enfant, as-tu bien récité tes heures? C'est-à-dire, as-tu bien récité la bonne prière à la bonne heure, quoi. The Hours, c'est peut-être aussi les prières qu'il faut comprendre. Mais donc des prières sans Dieu, sans Église. Bon, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur éparpillement et réunion. Il y a quelque chose dont j'ai pas du tout parlé pour l'instant dans Mrs. Dalloway et qui est vraiment, pour le coup, essaimé dans ce que j'écris et qui est le thème végétal, quoi. Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait des fleurs. La phrase est lancée au début de l'intrigue et puis les fleurs reviennent tout le temps, quoi, comme motif pour parler de tel ou tel personnage, pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de tel ou tel personnage en termes de floraison ou au contraire de fleurs qui se fanent. Les fleurs sont là tout le temps. Elles sont là sur le motif du papier peint, comme par hasard. Enfin. Bon, moi j'ai été très très marqué par ce motif. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait une grande vitalité. C'était comme nous aider à sentir ce qui se passe dans un bon roman, quoi. En nous proposant ce thème des fleurs. Je trouve qu'un bon roman, c'est toujours sous une forme ou sous une autre quelque chose qui évoque le printemps, quoi. Même si c'est un roman noir, même si c'est très sombre, il y a une créativité qui est de l'ordre du printemps. Enfin, je me suis mis à superposer ces deux choses, en fait, avec Mrs. Dalloway. C'est devenu indissociable, quoi. Et du coup, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a encouragé à parler du bambou dès le premier roman, Nouveaux Indiens. Dans Nouveaux Indiens, il joue encore un rôle relativement secondaire, même s'il est important, puisque le narrateur découvre le jardinage et particulièrement la culture du bambou au cours de ce qui se passe là-dedans. C'est une de ses découvertes dans le roman. Et ça devient central pour lui, quoi. Ça devient tellement central que le deuxième roman que je suis en train de finir reprend le personnage de Nouveaux Indiens là où je l'ai laissé, et le reprend comme exploitant d'une bambouseraie. Quand il rentre de son voyage aux États-Unis, il s'installe en France et il crée une bambouseraie. Et puis il s'immerge dans le travail de cette plante qui est très demandeuse sur tous les plans, très envahissante dans le réel comme dans le symbolique, de telle sorte qu'il est si envahi qu'il devient lui-même végétal, en fait. Le basculement de seconde nature, c'est ça, quoi. C'est d'utiliser le narrateur de Nouveaux Indiens en faisant basculer dans le merveilleux, en fait. Dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Dans quelque chose qui n'est pas possible, mais qui dit quelque chose de très important de la vie, justement, du plus réel de ce qui est, quoi. Son épine dorsale devient un bambou. C'est l'axe de son être qui devient végétal, quoi. Comme si. Enfin, c'est une manière de parler du principe vital qui l'habite, quoi. Parce que Virginia Woolf, elle appelle l'élan vital, moi c'est colonne bambou, quoi. Ça devient, voilà, ce jeu de résonance, il se fait comme ça, quoi. Élan vital, je crois que c'est trop gros pour moi, je peux pas parler comme ça. Je suis trop petit, quoi. Je J'utilise plutôt un personnage avec son bambou et voilà, il y a un bon gros symbole et ça suffit quoi. Bon, ça c'est un thème un peu comme ça, le thème végétal, c'est un thème assez visible quoi, de passage d'une œuvre à l'autre, peut-être comme il y a dans Virginia Woolf, des passages d'une conscience à l'autre quoi. Mais il y a quelque chose de plus profond dans Mrs. Dalloway qui m'a marqué plus loin encore quoi. C'est peut-être une autre manière de parler d'éparpillement et réunion. Et qui reprend Deleuze là aussi, c'est-à-dire un autre couple qui a donné le titre d'un de ses textes théoriques qui était en fait sa thèse, et qui s'appelle « Différence et répétition ». Je crois qu'on peut vraiment lire Mrs. Dalloway comme un texte de la différence et de la répétition. Bon, différence et répétition, c'est des principes absolument essentiels dans tout ce qui est, quoi. Que ça soit dans la nature ou dans les artefacts produits par les hommes. Ça a l'air complexe aussi comme ça, mais en fait c'est très simple. Si vous voulez, d'une certaine façon, la théorie de Darwin, c'est différence et répétition. Donc le processus vital, c'est des êtres qui se reproduisent et qui créent suffisamment de différences de l'un à l'autre pour que ça ne se répète pas de façon stérile. Il y a suffisamment de petites modifications pour que tel être soit plus adapté à l'environnement dans lequel il se trouve et puisse faire naître une nouvelle branche dans l'histoire de la vie, etc. Du très très concret, quoi. C'est du processus vital pur, quoi, différence et répétition. Mais évidemment, c'est très applicable dans le domaine de l'art, quoi. Purement sensible dans la musique, l'articulation de la différence et de la répétition. Le fantasme de bien des musiciens, c'est d'arriver à composer quelque chose avec une seule note. C'est effrayant de devoir produire une forme longue, variée, c'est terrible. Il faut créer une architecture. Donc l'un des fantasmes, c'est une œuvre à une note. Par exemple, Eric Clapton, il dit que le solo idéal, pour lui, ce serait un solo à une note. Il dit que c'est ce qu'Hendrix arrivait à faire, que lui, il n'y arrive pas. Très belle idée, quoi. Bon, il y a un musicien qui distribue la différence et la répétition d'une façon très proche de ce que fait Virginia Woolf, c'est Steve Reich, qui est un musicien qui a beaucoup compté pour moi, qui compte toujours beaucoup. Quel parallèle je fais entre Steve Reich et Virginia Woolf? Mrs. Dalloway, on pourrait le résumer comme ça. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air, 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 there she was. C'est une sorte de variation sur les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Puis il faut bien qu'il se passe des choses entre, de façon à ce que cette répétition soit pas ennuyeuse. Il faut mettre suffisamment de différence pour que la répétition soit possible, quoi. Qu'elle soit pas lassante. Donc il y a un truc très enfantin là-dedans, vous voyez, une espèce de plaisir de la comptine, de plaisir du mouvement de balancement, quoi. Du vrai, c'est ça qui fait son principe de composition, c'est le minimum de différence à l'intérieur de la répétition. Donc il va créer par exemple des toutes petites cellules rythmiques, rythmico-mélodiques, quoi. Et au départ, elles sont jouées par trois personnes de façon absolument simultanée, puis il les décale un tout petit peu. Puis un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, et c'est toujours les mêmes cellules, sauf que la différence gagne sur la répétition. Quoi. Et du coup, on se met à entendre des choses qu'on n'entendait pas avant, qui étaient presque pas présentes dans les petites formules superposées, et qui deviennent audibles, comme s'il y avait des nouvelles notes, en fait. Donc ça, c'est un mode de construction, tant dans Mrs. Dalloway que dans les œuvres de Steve Reich, comme dans Different Trains, par exemple, où on entend différence, et en même temps la répétition du train, quoi. Que je trouve extrêmement frappant, quoi. Et je dois vous confesser qu'avant ce premier roman, il y a eu un autre roman, ça c'est le premier roman publié, mais il y a eu un manuscrit avant qui n'a pas abouti, et dans lequel il y avait toute une scène que j'avais clairement pompée à Mrs. Dalloway, une scène qui se passait au Maroc, et où le narrateur délire, parce qu'il a la fièvre, et il se met à traduire les appels du muezzin de façon... c'est un peu son Big Ben à lui, quoi. Donc c'était la répétition de la phrase... Au loin, voix basse fidélité, donc c'était le contraire de haute fidélité, puisque les enceintes sont très mauvaises. Au loin, voix basse fidélité appelle les fidèles à se prosterner. Et ce truc-là se répétait plusieurs fois, comme les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Quoi. C'était une sorte de calque un peu jeune, quoi. Du refrain de Mrs. Dalloway, en fin de compte. C'est une sorte de refrain. Bon, dans Nouveaux Indiens, ce goût pour la différence et la répétition. Il se traduit à plusieurs échelles et à l'échelle de la phrase, donc c'est pas tellement à cette échelle-là que j'ai envie de vous parler. Je voulais plus vous parler à l'échelle de la structure, en macro plutôt qu'en micro, quoi. Si vous lisez la table, que j'avais pris un soin et un plaisir très fort à constituer, vous verrez qu'il y a des... Bon, il y a des titres pour chaque séquence, quoi. Nouveaux Indiens, c'est un roman qui est très découpé, parce que c'était très rassurant de fonctionner par petites cellules. J'avais pas l'impression de m'embarquer dans des gros bateaux, je sentais que je contrôlais l'écriture à chaque étape. Donc il y a des titres un peu tout le temps, quoi. Et il y a beaucoup de ces titres qui sont des variations les uns sur les autres. Donc il y a page 25, l'école des moulins, page 37, l'école des moulins 2, page 86, l'école des moulins 3, page 126, l'école des moulins 4. Donc c'est pareil, ça fonctionne presque comme des refrains, ça. On a bibliothèque, page 47, bibliothèque 2, page 65, bibliothèque 3 et 4, etc. Gardening 1, gardening 2. Voilà, il y a des titres qui se répètent comme ça. Et pour moi, c'était très structurant, en fait. Et c'est pas seulement dans la table que les chiffres apparaissent. C'est aussi dans le corps du roman. Donc, pour moi, ça aidait vraiment à... Ça m'aidait à sentir qu'il y avait suffisamment de répétitions dans mon texte pour que je puisse introduire pas mal de différences. Pas mal d'éléments divers. Autrement dit, il y a un caractère rythmique, quoi, dans ce que j'écris. Au sens où un rythme, c'est précisément l'articulation équilibrée d'une différence et d'une répétition, qui a été, je pourrais vous dire, encouragée par Mrs. Dalloway. Quoi. Voilà, c'était très rassurant de savoir qu'il y avait Mrs. Dalloway qui existait pour se lancer dans ce genre de travail.